Bonjour à tous.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là vous m'entendez? OK. Est-ce que là vous m'entendez? OK, c'est bon. Est-ce que là vous m'entendez? OK. Bonjour, l'église de Béthanie. C'est drôle, hein? Je dois voir ici et ici. Je prêche ici. C'est un plaisir d'être ici à l'église de Béthanie. J'ai beaucoup entendu parler de l'église de Béthanie. J'ai des amis qui viennent de l'église de Béthanie. Et c'est la première fois que je prêche dans une église baptiste à des adventistes. Et je suis heureux quand même d'être parmi vous. Et j'aimerais dire à chaque fois que je commence de partager la parole, de vous demander de prier pour moi dans votre cœur. Car vous n'êtes pas venu pour écouter quelqu'un, mais vous êtes venu écouter la parole du Seigneur. Donc priez pour que vous puissiez entendre la parole du Seigneur, parce que c'est elle qui donne la vie et c'est à travers elle que nous pouvons être sauvés. Donc je pense que je suis limité par rapport aux endroits que je vais marcher. Lorsque vous entendez ce son, c'est comme je suis allé à la limite là. Avant de commencer, je sais que on termine à 12h30. On m'a dit qu'après 12h30, je peux prêcher la longueur que je veux, mais à 12h30, il n'y aura plus d'adventistes. Donc, je vais essayer de rester jusqu'à 12h30. Avant de commencer, inclinons ensemble la tête pour prier. Prions. Père Céleste, je te remercie ce matin de nous accorder le privilège pour écouter ta parole. Cette parole qui est toujours une parole de vérité. Cette parole qui, après même 2000 ans, est toujours valide aujourd'hui, est toujours puissant pour chacun de nous, notre vie. Et alors que ce matin, ta parole va être prêchée, Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants, de mon cœur, afin que ta parole puisse y pénétrer et être gravée. Que l'Esprit Saint puisse faire son œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous ici présents. Et celui qui parle, Seigneur, il n'est même pas digne d'être là ce matin. Alors, s'il te plaît, accorde-lui ta grâce. Que ta parole soit dans sa bouche et que tu puisses le diriger en toutes choses et en tout lieu. Car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je sais que le texte de base a été pris dans Jean le chapitre 3, le verset 16 et 17. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il est éternel. Merci. Mais j'aimerais vous emmener dans un autre texte ce matin qu'on va voir, qui nous montre comment Dieu peut nous redonner la vie. Et j'aimerais, par cette histoire, montrer des choses que seulement Dieu, seulement Jésus peut faire dans votre vie et dans ma vie aussi. Donc j'aimerais vous inviter avec moi dans Luc le chapitre 8. Luc le chapitre 8, si vous avez permis à votre Bible ce matin de vous accompagner, donc je vous inviterai à l'ouvrir avec moi dans Luc le chapitre 8. Luc, le chapitre 8, à partir du verset 40. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, nous allons commencer à lire à partir du verset 40. « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme, nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. » Et là, j'aimerais sauter la partie où il rencontre la femme qui est atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, pour arriver au verset 49. « Comme il parlait, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques, et au père et à la mère, et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. L'histoire se passe après que Jésus ait quitté un territoire là où il a délivré quelqu'un qui était sous l'emprise des démons. Et il retourne à l'autre bord parce que l'endroit où il était, personne ne voulait de lui parce qu'il a fait perdre à ces gens-là plusieurs porcs, plusieurs animaux, si ce n'est que les pourceaux. Donc, en venant à l'autre bord, il y avait plusieurs personnes qui attendaient Jésus. Et l'une de ces personnes, c'était un chef de la synagogue. C'était Jaïrus. Et sa fille était malade et qui était au point de la mort. Et la Bible nous dit que voilà que cet homme qui a pris l'initiative de voir que sa fille était malade, il a pris cette initiative d'aller vers Jésus, d'aller trouver du secours vers Jésus pour que sa fille ne soit pas morte. Mais vu qu'elle était toujours malade, il est possible de Jésus de la guérir avant qu'elle passe par la mort. J'aimerais m'arrêter ici pour dire quelque chose. Vous allez voir que la Bible dit très clairement que c'était le chef de la synagogue qui avait un problème. Il dit clairement que ce chef de la synagogue est venu à Jésus, se jetant à ses pieds et le supplia de guérir sa fille. J'aimerais vous dire ce matin, chers amis, en tant qu'il est chef de la synagogue, il est chef de famille aussi. Il est un chef de l'Église. Alors j'aimerais prendre l'opportunité ce matin, chers amis, de dire au chef de l'Église, au chef de la maison, n'attendez pas à ce que vos enfants soient morts spirituellement pour que vous alliez à Jésus pour le supplier qu'il guérisse votre enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour commencer à prier pour ses enfants. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on attend seulement à ce que ce soit nos enfants pour que nous puissions commencer à prier. Mais je ne suis pas là pour vous dire que attendez à ce que vos enfants soient perdus, soient morts pour que vous commenciez à prier pour vos enfants. Commencez dès maintenant. Parce que Jésus peut agir maintenant. Et voilà que Jésus est en route pour aller à la maison du chef de la synagogue. Il arrive dans ce lieu et voilà qu'il y a des gens qui étaient déjà là pour pleurer la mort, pour pleurer l'état de cette jeune fille. Voilà que des gens sont déjà rassemblés pour pleurer cette personne qui est chère, cette personne qui est un bien-aimé. Et Jésus arrive et il va dire, « Pourquoi vous pleurez ? Pourquoi vous pleurez ? Elle n'est pas morte, mais elle dort. » Vous savez que, heureusement, de ce que en route, Jésus a entendu la nouvelle de ce que la fille est morte et que Jésus a dit, « Ne crains pas, mais crois seulement, elle sera sauvée. » j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que parmi ces gens qui étaient là pour pleurer, il y avait des gens qui étaient là pour pleurer. Il y avait des gens qui étaient là pour participer à ce moment de tristesse, pour encourager les parents qui étaient passés par ce deuil. Mais aussi, à cette époque, il y avait des gens qui étaient payés pour venir pleurer aux funérailles. Je ne sais pas s'il y a ça dans, là où vous êtes d'origine, mais là où d'où je viens, il y a des gens qui payent d'autres personnes pour venir pleurer aux funérailles. C'est comme il arrive, dès qu'ils entrent à l'endroit où la mort est, ils commencent à pleurer comme si c'était leur proche. Et après une heure et deux heures, ils ont fini. Donc, il y a des gens qui viennent pour seulement parce qu'ils sont employés pour pleurer. Et voilà que Jésus arrive dans ce moment où il travaillait, dans ce moment où ils étaient en train de faire le plus belle pleur qu'ils ont. Et Jésus arrive et gâche un peu le mood pour dire, mais pourquoi vous pleurez? Elle n'est pas morte. Elle dort. Et voilà qu'un moment de tristesse, un moment où on se lamente, un moment où on est chagrin de la perte d'une personne, change tout de suite en un moment, en un éclat de rire. Il y a certaines traductions qui disent qu'il riait à grand éclat. C'est-à-dire que c'était un grand rire. Pour eux, Jésus a fait une blague. Mais la question que je me suis... Pardon. La question que je me suis posée, qu'est-ce que Jésus a vu qu'ils n'ont pas vu? Qu'est-ce que Jésus peut faire qu'ils ne peuvent pas faire? Il y a une différence entre ce que eux, ils voient et ce que Jésus voit. Parce que les gens qui étaient là pour pleurer, ils voient que la fille est morte. Mais Jésus voit quelque chose de différent. Et c'est la raison pourquoi Jésus a dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Alors que pour ces gens, chers amis, ce jeune de 12 ans était mort. Ce jeune de 12 ans, il n'y avait plus rien pour elle. Il n'y a plus de vie, plus d'espoir, plus de projet, plus d'avenir, parce qu'elle était morte. Il n'y avait plus rien pour cette jeune fille. Ça, c'est ce que les gens voyaient. Ça, c'est ce que les gens voyaient en cette personne qui est couchée par terre. Ça, c'est ce que les gens peuvent déduire de la situation de cette jeune fille. Et ça, c'était ce qu'ils voient en cette jeune fille. Mais Jésus voit quelque chose de différent. J'aimerais vous dire ce matin, chers amis, lorsque des gens vous regardent, ils vous jugent. Il y a des gens qui vous regardent en tant que jeune, en tant qu'adulte, la façon dont vous bougez, dont vous parlez, dont vous mangez, ils vous jugent par rapport à cela. Les gens vous voient et déduisent et font leur propre conclusion par rapport à ce qu'ils voient en vous. Et des fois, ce n'est pas des belles choses qu'ils voient, parce qu'on est toujours à comparer avec les autres. Parce que ces gens-là savent qu'ils sont vivants, mais ils voient cette personne qui est morte. On voit toujours cette personne qui est plus bas que nous. On voit toujours l'autre moins que nous. Et c'est là ce qui s'est passé avec ces gens qui se lamentaient, qui pleuraient, parce qu'ils ont vu une seule chose, c'est la mort. Lorsque des gens vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient ce matin? Il y a des gens qui n'expriment pas leurs pensées clairement, je dirais. Mais si vous pouvez lire les pensées, vous allez voir que ce n'est pas des bonnes choses qu'ils pensent de vous. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas ce que les anges, les autres pensent de vous. C'est que Jésus pense de vous. Parce que lui, il ne voit pas ce que vous voyez maintenant. Il voit dans l'avenir. Il peut voir ce qu'il peut faire avec vous. Alors que des gens voient des jeunes, des gens perdus, des gens que nous ne pouvons plus rien faire avec, des gens qui ont raté, excuse-moi l'expression, qui sont illettrés spirituellement, des gens que nous ne pouvons plus rien faire avec parce qu'ils sont morts spirituellement. Mais Jésus, lorsqu'il regarde, il voit des rachetés, des sauvés, des ressuscités, des gens qui est, j'aime bien les jeux de mots, qui est un candidat potentiel pour le ciel. C'est ça ce que Jésus voit en vous. Et chers amis, j'aimerais emmener une autre facette de cette histoire. C'est que l'histoire est ceci. Les gens voient que cette personne est morte. Jésus voit cette personne qui peut redevenir en vie. Mais il y a une autre facette, c'est que les gens peuvent voir en vous des gens qui sont vivants. Mais lorsque Jésus vous regarde, vous êtes mort. Ça, c'est l'autre facette de l'histoire. Les gens peuvent voir quelqu'un qui est actif, qui est motivé, qui est zélé, qui est, je dirais, qui est un prédicateur, qui est un enseignant de la Bible. Mais lorsque Jésus regarde ce matin, il voit seulement quelqu'un qui est dézélé à l'intérieur et qui est mort spirituellement. C'est juste un acte, c'est juste les mouvements qui paraissent. Ce que Jésus voit, chers amis, il peut voir ta condition ce matin et il peut voir la condition que tu peux être après. Je ne suis pas en train de me contredire ce matin, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus voit la propre condition dans laquelle vous êtes ce matin, que je suis ce matin. Et cette condition, des fois, n'est pas tellement claire, n'est pas tellement visible, n'est pas tellement bonne. Mais ce que Jésus voit encore, c'est que la condition dans laquelle vous êtes, il peut la changer. Il peut la rendre meilleure. Il peut, ceux qui sont dézélés, il peut le rendre zélé. C'est ce que Jésus a vu dans cette personne qui n'a plus de vie. Dans cette personne qui n'avait plus rien en elle, plus d'espoir, plus d'avenir, parce qu'elle était morte. Et lorsque nous étudions maintenant, c'est quoi la mort? Vous pouvez dire, oh, ça c'était l'un des doctrines qu'on a étudiées. J'ai étudié ça, j'enseigne ça, je sais ça. C'est ça la mort. La mort, la Bible nous dit qu'il n'y a plus rien qui se fait sous le ciel et sur la terre qu'on connaît pendant la mort. Parce que la mort arrête tout. Il n'y a plus rien, plus d'espoir, plus d'avenir. Il n'y a plus de désir. Tout est fini lorsqu'on est mort. Quelqu'un a expérimenté la mort? Ok, personne. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que lorsque quelqu'un est mort, il n'y a plus rien en cette personne qu'on peut faire avec. C'est-à-dire que lorsque vous êtes mort, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus manger, vous n'avez plus de désir, vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus rien à faire à l'église. Il n'y a plus rien à faire à la maison puisque vous êtes dans un petit boîte et 6 pieds sous terre.
En d'autres mots, la mort arrête la vie. En d'autres mots, la mort vous bloque dans un monde d'obscurité. En d'autres mots, la mort est quelque chose, est un état dans lequel je me trouve où je ne peux plus avancer parce que je ne veux, je, c'est pas que je veux plus, mais c'est parce que je ne peux plus avancer. La mort vous tient captif dans un monde d'obscurité. Est-ce que la mort spirituelle, c'est la même chose? Est-ce que lorsque vous êtes en train de mourir spirituellement, vous ressentez la même chose? Il n'y a plus désir pour la parole de Dieu. Il n'y a plus désir d'aller à l'église. Il n'y a plus désir de chanter. Il n'y a plus désir de lire la parole de Dieu. Il n'y a plus de désir de faire des choses ou de participer dans des choses spirituelles. Parce que j'ai pris un autre chemin. La mort physique et la mort spirituellement, c'est quelque chose de similaire. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est là le désir de l'ennemi. C'est que tous, y compris moi-même, nous soyons morts spirituellement. Parce que lorsque nous sommes morts, lorsque nous sommes morts spirituellement, nous ne pouvons plus avancer. Nous n'avons plus le goût de partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle aux autres. Pourquoi partager? Puisqu'on ne la vit pas. Pourquoi progresser puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de vie en nous? Et c'est ça le désir, chers amis. En d'autres mots, la mort nous arrête dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et la mort spirituelle aussi, ça va de même. Nous n'avons plus le désir de rechercher Dieu. Nous n'avons plus le désir de l'adorer. Nous n'avons plus rien à faire avec ce Dieu-là. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'est plus là. Il n'est plus là dans ma vie. Puisque le prince de vie n'est pas dans votre vie, il n'y a point de vie. Parce que souvent, des fois, chers amis, c'est que ce qui arrive, nous laissons autre chose prendre la place dans notre vie. Et petit à petit, nous sommes en train de prendre un chemin qui nous mène vers une mort certaine. Pour vivre dans le royaume des cieux, chers amis, pour vivre dans le royaume des cieux, il faut mourir au monde et commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ maintenant. Mais malheureusement, il y a trop de chrétiens qui meurent spirituellement pour vivre dans ce monde. Et c'est là le problème. C'est que des fois, nous arrivons à cette étape de la vie et nous ne sommes pas conscients. Ça, c'est le plus grave. On est mort et on n'est pas conscient de notre état. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Celui qui donne la vie peut faire revivre le mort. Là où il n'y a pas de vie, Jésus ramène la vie. Là où il n'y a pas de lumière, il est celui qui apporte la lumière parce qu'il est la lumière du monde. J'aimerais vous dire que lorsque Jésus entre dans une situation, entre dans un endroit, entre dans une maison, entre dans une église, la situation ne peut rester la même lorsqu'il était avant que Jésus n'arrive. Lorsque Jésus entre dans votre vie, il y a tout un changement qui s'opère. Parce que la conclusion de l'ennemi pour vous, qu'il veut qu'il y ait dans votre vie, c'est que vous êtes mort, enterré, en dehors de l'église, du royaume de Dieu et en dehors de tout ce qui s'appelle la spiritualité. tout ce qui s'appelle la présence de Dieu. Lorsque l'ennemi fait son rapport sur votre vie et il arrive au point final de son rapport, Jésus, puisqu'il n'a pas encore commencé avec vous, il peut changer les points finaux en un virgule et lui, il commence avec vous. C'est ça le Dieu que nous servons. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Et j'aime bien les jeux de mots, comme j'ai dit. J'aime bien les jeux de mots. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi arrive avec sa conclusion sur votre vie, Jésus arrive sur les lieux et il dit, laisse-moi prendre ta conclusion pour faire mon introduction, car je suis la résurrection. Il y a des choses qui peuvent changer dans votre vie, dans ma vie. Il y a des choses que nous pouvons faire, que Jésus peut faire dans notre vie et changer la situation dans laquelle vous vous trouvez en une situation meilleure. Parce qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu, quitter la présence de Dieu et rester le même. Moïse, lorsqu'il est allé sur le mont Sinaï, lorsqu'il est redescendu, le peuple de Dieu ne pouvait plus le voir parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui reflétait sur son visage. Je ne connais pas votre vie ce matin. Je ne connais même pas tous les noms des personnes qui sont ici présentes ce matin. Mais j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Jésus, lui, il connaît votre nom, votre vie, votre famille, vos difficultés, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et cette situation, par rapport à ce que des fois les gens vous jugent, vous pointent du doigt, ou peut-être vous semblez de ce que il y a, je pense que je suis en vie, mais lorsque je fais une rétrospective dans ma vie, une inspection bien détaillée de ma vie, je me rends compte de ce que je suis en train de mourir spirituellement. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que le texte de base qu'on a lu, Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que vous sortiez dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour que vous ayez la vie. Amen. Laissez-moi vous raconter une histoire, l'histoire de mon meilleur ami. Je sais qu'il y a beaucoup, lorsque j'étais à la retraite avec l'église de Béthanie, j'ai raconté mon expérience et une partie de l'expérience de mon ami. Et en fait, c'est mon meilleur ami. J'aimerais vous montrer comment Dieu a agi dans sa vie. Lui, il était adventiste, et moi, j'étais catholique. On est devenus les meilleurs amis, et en tant que meilleurs amis, adventistes et catholiques, on faisait des choses qui n'étaient pas trop catholiques. Des choses qui n'étaient pas en accord avec la Bible aussi. Mais alors que le temps avance, je pense que la situation s'est détériorée et il y avait plus de choses mal qu'on faisait et que même ses parents n'en pouvaient plus avec lui. Et là, j'aimerais dire quelque chose aux parents maintenant, ce matin. C'est que lorsque vous êtes dans un état de colère, pensez bien à ce que vous dites aux enfants. C'est juste un conseil. Pensez à ce que vous dites aux enfants. Parce que lui, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas à quel point il était mauvais, je dirais. À quel point sa situation s'est détériorée que sa mère lui a même dit une chose qui a été blessante pour lui.
Sa mère lui a dit ceci. J'aurais voulu mettre au monde un sac de charbon, le vendre et avoir un peu d'argent que de te mettre au monde. Ça, c'est dur. Ça, c'était un point où les parents n'en pouvaient plus avec lui. Ça, c'était un point où ce que les parents voyaient dans sa vie, ça, ce que les gens disaient par rapport à lui lorsque les membres d'église le voyaient. Il se battait contre les gens de l'église. Il se battait même contre le pasteur. Il n'avait peur de rien. Jusqu'à même ses propres parents lui disent, tu ne vaux plus qu'un sac de charbon. Qu'est-ce que les gens pensent de vous ce matin? Des fois, nous nous rendons compte de ce que peut-être que les gens pensent qu'on ne valent plus rien. Les gens ne connaissent pas ce qui se passe à l'intérieur, mais ils nous jugent par rapport à ce qu'ils voient. Mais à l'intérieur, on est en train de mourir petit à petit. Et cette voix à l'intérieur ne peut pas crier au-delà. Mais il y a une chose, c'est que Jésus voit plus loin. Et c'est là la solution à notre problème. Et l'histoire de mon ami ne s'arrête pas ici. Parce qu'après une retraite spirituelle, il est entré à la maison, il s'est mis à genoux, il a dit, Seigneur, je suis faible. Je suis faible. Prends ma main faible dans ta main forte. Prends ma main faible dans ta main forte. Jusqu'à présent, le Seigneur a tenu cette main faible dans la main forte.
Amen.
Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette personne est un pasteur de l'Église adventiste.
Amen.
Ce que ses parents ont vu, ce n'était pas ce que Jésus a vu.
Amen.
Ce que ses parents l'ont dit, ce n'est pas ce que Jésus a prévu pour lui.
Amen.
Chers amis, ce matin, j'aimerais vous inviter à venir avec moi si vous voulez dire, Seigneur, je suis faible. Prends ma main faible dans ta main forte. J'aimerais vous demander ce matin, chers amis, si vous voulez dire, Seigneur, c'est cette expérience que je veux avec toi. Je veux qu'il y ait un changement. Je veux qu'il y ait une transformation. Je veux que la situation dans laquelle je me trouve, qu'il y ait un changement dans ma vie. Car je ne veux plus rester dans cette situation. Lorsque Jésus rentre, la situation change. Lorsque Jésus arrive, il transforme votre vie. Si c'est ça votre désir ce matin, j'aimerais vous inviter à venir avec moi ici, à prier ensemble pour dire, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je suis faible. Je suis faible. Aide-moi à prendre la bonne décision. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à te donner cette vie qui a été une débauche. Une vie que les gens ne pouvaient plus regarder. Les gens, lorsqu'ils regardaient, il n'y avait plus d'espoir. Mais ce matin, c'est cette vie que j'aimerais te donner. Parce que d'après l'histoire, tu peux changer la vie de cette jeune fille. Tu as pu changer la vie de cette jeune fille. Tu as pu changer la vie de l'ami dont on parle. et tu peux aussi changer ma vie. Je vous invite ce matin à venir avec moi si c'est là votre désir, à ce que nous puissions prier ensemble dans cette optique, à dire Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est peut-être la dernière fois, non. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est peut-être la dernière fois que vous répondez à un appel. Non, pas tous de cela. Mais ce que je suis en train de vous dire, que il y a Jésus qui peut seulement changer votre vie et ma vie. Il y a seulement Jésus qui peut emmener cette transformation totale en nous. Là où vous vous trouvez, là où nous nous trouvons, c'est seulement lui qui peut amener la résurrection, cet enthousiasme, cette zèle, cette motivation pour lui et pour sa gloire. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ne reste pas dans cet état de mort, mais qu'il a la vie éternelle et la vie en abondance. J'aimerais vous inviter avec moi de vous mettre à genoux si c'est possible. Ceux qui ne peuvent pas peuvent asseoir. Et on va prier. Notre Dieu, notre Père céleste, ce matin, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Merci de ce que, à travers ce texte, cette histoire, nous nous rendons compte, Seigneur, de ce qu'il peut y avoir un changement dans notre vie. Il peut, Seigneur, avoir une transformation totale et radicale dans notre vie ce matin. Alors que ta parole a été prêchée, ton message a été délivré et que le cœur a été touché par ce message. Que la gloire revienne à toi seul, Seigneur, parce que c'est toi qui convainc, c'est toi qui touche les cœurs, et c'est toi qui mets à l'esprit de tes enfants de répondre à l'appel cet après-midi. Nous sommes devant toi, tu vois ces personnes qui ont répondu à l'appel, qui ont dit, Seigneur, je suis faible, mais je veux qu'il y ait un changement. Je veux que tu puisses prendre ma main faible dans ta main forte ce matin, en cet instant, et que tu puisses me conduire jusqu'au bout. C'est vrai de ce que tu as un plan, un projet pour nous. S'il te plaît, Seigneur, visite les cœurs en cet instant. Ce cœur qui crie vers toi, ce cœur qui a été si longtemps éloigné de toi, ce cœur qui a tant de foi t'a mis à la porte, mais tu continues à frapper à ce cœur. Tu continues à frapper à cette porte. S'il te plaît, accepte-nous ce matin. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, car nous en avons besoin. Que chaque jour de notre vie, nous puissions avoir une nouvelle raison à marcher avec toi. Que chaque matin, tu puisses renouveler ta bonté pour que nous puissions, Seigneur, expérimenter ta présence. Que dans les moments difficiles, dans les moments les plus joyeux, nous pouvons toujours te rendre gloire et te donner la première place. Seigneur, réveille en nous ton amour. Réveille en nous notre conscience. Et réveille en nous ce désir de te servir et de marcher avec toi. alors que nous allons quitter ce lieu très bientôt, que nous puissions quitter ce lieu avec l'assurance de ce que tu nous as écouté et quitter ce lieu avec l'assurance de cette paix que tu nous donnes et de ce que tu vas nous préparer pour ton prochain retour. Merci de nous écouter, de nous avoir exaucés, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.